Bonjour à tous. Alors j'ai vu qu'hier, certains ont certainement regardé le mariage de Lady Di et après de l'Angleterre, là. D'autres ont préféré regarder le foot plutôt que de venir écouter Jean-Pierre, mais nous sommes sous la grâce et je ne vous en veux pas. Alors je ne vais pas faire un message suite à celui d'hier. Vous savez, quand vous êtes itinérant, vous prêchez un peu à droite, à gauche, tout ça, et un des craintes, des soucis, c'est qu'est-ce que je devrais apporter à cette église. Donc vous priez pour ça, pour que le Seigneur vous conduise et vous dirige vers un message. Et en fait, ce matin, je vais vous apporter un message qui est un message que j'ai tiré d'un livre. Le livre s'appelle « Les murs de mon cœur ». Donc pendant un temps, un frère m'a un peu aidé, là, j'avais quelques difficultés dans mon travail, tout ça. Et il m'a conseillé de lire ce livre qui s'appelle « Les murs de mon cœur » et qui a comme sous-titre « Le fil à plomb de Dieu ». Et je peux dire que ce livre a été vraiment une aide précieuse. Et ce qui était rigolo, c'est que la personne qui me faisait les entretiens m'a dit « En fait, Jean-Pierre, tout ce que je t'ai dit, tu aurais pu toi-même me le dire ». Mais tu avais besoin de le réentendre d'une autre manière et par la bouche de quelqu'un d'autre. Donc ce matin, je n'ai vraiment pas la prétention de vous amener quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit ne m'est pas tombé dessus, je n'ai pas une langue de feu qui est sortie de la bouche. Mais j'espère que cela vraiment vous encouragera, vous rappellera un peu les promesses de notre Dieu. On a déjà entendu ce matin l'importance de la parole, l'importance de ses promesses. Eh bien, je pense que la plupart d'entre vous seriez capables de citer des versets de la Bible, de citer des versets des psaumes et tout, mais ce n'est pas le tout de les connaître, c'est de se poser la question, est-ce que je m'en saisis de ces promesses? Est-ce que j'en vis? Et on peut même, comme moi, être dans le ministère et parfois oublier un petit peu ce que la parole de Dieu dit. Et je suis sûr que Jean-Haut sera d'accord avec moi, un danger quand on est pasteur, c'est que quand on lit la Bible, on s'en sert comme un instrument de travail. Vous voyez, on voit déjà, moi, j'ai du mal des fois à méditer pour moi sans dire « Oh, purée, ça ferait une bonne prêche, ça. » Ouais. C'est un peu un problème. Hein, on ouvre la Bible parce qu'il faut préparer une étude, il faut préparer un message, il faut faire un exposé, et ça devient un instrument de travail. Et même en tant que pasteur, on peut oublier que ces promesses, elles sont vraies, qu'on peut s'en saisir, qu'elles sont pour nous, qu'elles peuvent vraiment transformer notre vie. Hein, j'aime à dire que la parole de Dieu, elle est vivante. Regardez, ça fait combien de fois que vous lisez la Bible? Réfléchissez, ça fait combien de fois que vous avez lu les évangiles? Hein, 20, 30, 40, 50 fois? Ben, vous ne vous en lassez pas. Hein, si vous relisez un roman policier, en général, vous pouvez le lire qu'une fois, parce qu'une fois que vous savez la fin, le roman il n'a plus vraiment d'intérêt. Hein, alors, si vous aimez les romans policiers, je connais des bons auteurs, mais je ne connais pas un roman policier que vous allez lire 15, 20, 30 fois. Hein, je ne pense pas. Mais par contre, la Bible, on peut la lire, on peut la méditer, on peut l'étudier, elle est vraiment vivante parce qu'elle agit dans nos cœurs. Alors, si j'avais un titre à donner à mon message, je l'aurais appelé « Le fil à plomb de Dieu ». Je vous invite pour commencer à lire, alors un passage que j'ai déjà lu hier à la conférence. Donc c'est dans la Genèse, je vous invite à lire au chapitre 3, les 6 premiers versets. Donc Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors ici, nous voyons le malin qui va, j'ai envie de dire, remplir habilement les oreilles d'Adam et Ève de mensonges et de fausses promesses. Le but est de les séparer de leur Créateur, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Le mal va toucher absolument toute la création. Et il va avoir des conséquences comme la peur, la honte, la culpabilité. Et on sait que ce mal va entrer dans le cœur de l'homme et va affecter tous les domaines de l'homme. Je dis que le chant de la sirène diabolique est beau, mais alors, quelles conséquences catastrophiques. Et le tentateur, là, on le voit, il va utiliser ce que j'appellerais deux flèches empoisonnées. Et vous verrez, quand je vais parler de ces flèches empoisonnées, je ne vais pas parler dans le cadre de l'évangélisation, mais vous verrez combien les gens, finalement, ont été touchés par ça, et nous-mêmes, qu'on a été touchés par ça. Et la première flèche, c'est le doute sur la parole de Dieu. On pourrait même dire que là, c'est le doute sur la bonté de Dieu. Mais regardez ce qu'ils disent. Dieu a-t-il réellement dit ? Ce n'est pas une affirmation, non, Dieu dit un mensonge. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil. Et je suis sûr, on ne peut pas remonter en arrière pour le savoir, mais je suis sûr, tout est dans le ton. Il ne dit pas, Dieu a-t-il réellement dit ? Non. Mais Dieu a-t-il réellement dit ? Comme s'il était scandalisé que Dieu vous ait dit un truc pareil. Vous ne comprenez pas que Dieu se garde le meilleur pour vous, pour lui. Et ce Dieu a-t-il réellement dit a pour conséquence l'incrédulité dans le cœur de l'homme. L'incrédulité sur sa parole, mais aussi l'incrédulité sur sa bonté. Quand vous annoncez l'Évangile, est-ce que les gens vous disent pas « Ah oui, mais si Dieu était bon, alors pourquoi qu'il y a la guerre comme ça? Pourquoi qu'il y a ceci? Pourquoi qu'il y a cela ?» L'incrédulité sur la parole de Dieu. Et la deuxième flèche, c'est la fausse promesse d'être comme des dieux. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il y a de quoi se la péter, il faut quand même le dire. Et ça, ça va avoir pour conséquence l'orgueil dans le cœur de l'homme. Cet homme qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu pour vivre, que c'est juste bon pour les faibles et les boiteux. Et ces conséquences, on va déjà les retrouver dans l'histoire du peuple d'Israël, qui a été plus d'une fois appelé un peuple au cou raide, qui avait du mal à plier le genou devant son Dieu. Et voilà ce que Dieu va dire à travers le prophète Amos. Amos dit, « Il m'envoya cette vision. » Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. » Donc vous savez ce que c'est qu'un niveau, si vous construisez un mur, vous mettez le niveau dessus, c'est pour voir si le mur est bien droit. Et du temps du prophète Amos, le niveau, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu à laquelle le peuple aurait dû obéir. Et si le peuple d'Israël avait été un peuple vraiment soumis à Dieu, qui avait vécu dans la crainte de Dieu, et mis en pratique tous les commandements que Dieu avait donnés, ça aurait été le peuple le plus heureux de la terre. Bien des bénédictions étaient promises au peuple d'Israël s'il marchait dans l'obéissance. Il aurait vraiment dû être la lumière des nations. Mais, parfois à cause de l'incrédulité, parfois à cause de notre orgueil, le peuple d'Israël n'a pas connu, j'ai envie de dire, la destinée qu'il aurait dû avoir. C'était un peuple qui devait adorer Dieu, n'avoir qu'un seul Dieu. Il aurait dû montrer la sainteté de Dieu par la vie qu'ils auraient dû mener. Je vous rappelle que c'est un peuple que le Seigneur lui-même a sorti de l'esclavage. Il a fait traverser la mer Rouge. Il aura fait traverser le désert, ça a été long parce qu'ils ont tourné en rond. Il a ouvert le Jourdain devant eux, il leur a donné un pays, ils devaient le conquérir, mais le Seigneur leur a quand même donné un pays qui les dit où coule le lait et le miel. Mais on se rend compte, quand on lit le livre des Juges, hein, qui est juste après l'arrivée dans le pays de Canaan, que finalement, le peuple d'Israël va bien souvent se laisser séduire, va être incrédule par rapport à la parole de Dieu, va être aussi orgueilleux, et il ne va pas être vraiment la lumière des nations. Excusez-moi, je viens de perdre ma prédication. Je joue aux jeunes et puis j'y arrive pas. Hein. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes l'Église qui s'est acquise au prix de la vie de son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité. Nous sommes saints. Nous avons été mis à part pour Dieu. Hein? Être saint, ce n'est pas avoir des qualités morales, mais c'est avoir été mis à part pour Dieu. Nous avons été rachetés par lui, il a manifesté par là son amour. Mais si nous sommes déclarés saints, eh ben, en même temps, on doit marcher vers cette sainteté. Hein? C'est ce qu'on appelle parfois déjà pas encore. Je suis déjà saint, mais je dois marcher vers cette sainteté. Et la Bible parle beaucoup de la sanctification, de ce chemin qu'on doit marcher dans l'obéissance pour être libéré de nos péchés, pour être libéré de nos craintes, et pour que l'Esprit de Dieu ait de plus en plus de place en nous, que nous puissions porter les fruits de l'Esprit. Et porter les fruits de l'Esprit, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons un excellent modèle, c'est la vie de Jésus. Quand je dis « je porte les fruits de l'Esprit », ça veut dire que le caractère de Christ va transparaître au travers de moi. L'obéissance donc et la confiance dans la parole de Dieu sont primordiales. Si nous voulons grandir dans notre foi, si nous voulons porter donc des fruits, si on veut être utilisé par notre Seigneur pour l'avancement de son royaume, la parole de Dieu doit vraiment être au centre de nos vies. Et j'ai envie de dire, ne nous contentons pas du 108 évangélique. Hein? Je lis mes deux chapitres de la Bible matin, je prie 15 minutes, j'ai ma conscience en paix, tout va bien. Ben non, la Bible c'est un repas bien plus important. Et il est important de pas seulement la lire, la Bible, mais de la méditer, de l'étudier, de connaître les promesses, de mettre en pratique ce qui est dit. Si on commence à douter de la Bible, si on commence à douter de ses promesses, qu'on commence à négliger sa lecture, alors je pense qu'on est en danger. Si je crois finalement, j'ai pas besoin maintenant de lire la Bible, je suis un chrétien depuis longtemps, donc je la connais assez, et qu'on commence à lire de moins en moins, on est en train de se mettre en danger. Le diable a utilisé avec Adam et Ève des flèches qu'il utilise encore aujourd'hui. Il n'a pas vraiment changé de tactique. Il y a la flèche de l'incrédulité et il y a la flèche de l'orgueil. Alors, que ce soit l'incrédulité ou l'orgueil qui domine dans nos cœurs, il va avoir des répercussions forcément dans nos vies. Et la première flèche, donc, l'incrédulité, le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» peut se manifester, ça peut peut-être parfois ça va peut-être vous étonner, mais Dieu a-t-il réellement dit? Commencez à avoir le doute dans le cœur. Vous disiez des promesses, oui, mais ça c'était bien pour David, mais est-ce que ça me concerne moi aujourd'hui? Eh bien ça va se manifester par peut-être de la tristesse, voire même de la pitié de soi, de l'insécurité, un sentiment d'infériorité, l'échec, la culpabilité, la faiblesse, l'effacement, le découragement, le désespoir. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ces promesses sont vraiment pour moi? Est-ce que je suis vraiment digne d'être aimé par Dieu? Alors, au contraire, l'orgueil, le fameux « vous serez comme des dieux », amen, Oh, j'ai cru que vous alliez dire amen. J'ai un peu peur là. Mais ça peut se manifester par de la vanité. Et puis par une chose, hein, là vous pensez peut-être que ça ne se trouve pas, à part dans l'église de Vendôme peut-être, ça peut se manifester par de la compétition. Vouloir être meilleur que l'autre. Ouais, ça sert quelque chose, mais ah, quand même être un peu mieux pour que les gens viennent dire « Oh, c'était bien et tout !» Donc on peut avoir aussi un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Hein? Et après, ça peut amener une certaine rigidité, un entêtement, un esprit critique ou le contrôle. Moi, j'ai travaillé dans pas mal de conseils d'église. Hein? Baccarat, Lunéville, Darnay, Enskisheim. J'ai rencontré d'autres conseils d'église, mais là, c'est quatre conseils d'église différents avec qui j'ai travaillé. Et je peux vous dire que, quand même, hein, faut le dire, mais la soif de pouvoir est quand même présente. Hein? On aime bien diriger, hein. On aime prêcher, soumettons-nous les uns aux autres tant que mes idées passent. Ah ouais, mais ça peut vraiment créer des problèmes. Alors quelqu'un qui est plutôt à tendance incrédulité deviendra un chrétien, soit un chrétien compatissant ou un chrétien défaitiste. C'est-à-dire que le compatissant aura cet état d'esprit pour me sentir aimé par les autres, il faut que je recherche l'approbation. Donc, il ne va pas vraiment donner son avis, il ne va pas vraiment dire ce qu'il pense. Il va se ranger du côté des autres pour plaire aux autres. Surtout, pour ne pas se faire rejeter. Et pour être certain de recevoir l'amour des autres. Le défaitiste, il se sent peut-être pas aimé, peut-être qu'il pense qu'il a un cas désespéré. Oui, les autres peuvent être bénis, mais moi, je suis vraiment le pauvre type de l'Église et je vois pas comment je pourrais recevoir cet amour de Dieu. De toute façon, j'ai pas de don. Regarde, lui, Jean-Pierre, il parle facilement. Moi, je n'ose même pas donner mon témoignage. Voyez, on commence à se comparer aux autres tout en descendant, en s'écrasant. Dans ces deux cas, on ne voit pas comment des fruits de l'esprit comme la paix, la joie, l'amour peuvent apparaître. Maintenant, quelqu'un qui est du côté plutôt orgueil, donc va devenir ce chrétien un peu compétition, et surtout ce qui est embêtant, c'est le côté critique et jugement. Vous voyez, une des choses qui fait du mal dans l'Église, c'est les choses qu'on n'entend pas beaucoup. C'est les murmures. Hein, quand on murmure, on ne crie pas. Hein? Ah oui, tu sais, il fait ça, mais en fait... je suis sûr que Jean, il est d'accord. T'es d'accord? Oui. Amen, frère, Dieu te bénisse. Et le chrétien critique, il va être toujours un peu dans la recherche de la performance. Je peux mieux faire. Le chrétien critique, pour lui, ceux qui ne sont pas à la hauteur de ses propres exigences ne méritent pas vraiment d'être aimés. Et donc, c'est vraiment embêtant qu'il sera bien souvent dans le jugement. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi des fois on est d'un côté et pourquoi des fois on est de l'autre? J'aimerais rappeler, et c'est quand même une vérité biblique, qu'on soit dans l'orgueil ou dans l'incrédulité, c'est quand même un péché. Je ne dis pas que c'est un péché qu'on va dénoncer comme ça, mais c'est quand même un péché. J'aimerais rappeler quelque chose. Si parfois on est d'un côté ou on est de l'autre, c'est parce que on a peut-être oublié les fondements sur lesquels notre vie de chrétien doit être construite. Le premier fondement, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui s'est manifesté à la croix. Et je répète, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui s'est manifesté à la croix. L'amour du Père a vraiment été manifesté ce jour-là d'une manière éclatante. Et voyez, le moyen de de tuer les gens, c'était cette crucifixion. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas comment on va appeler ça. Mais quand Jésus est crucifié, il est crucifié les mains en croix, comme s'il voulait accueillir tout le monde. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La parabole du Père et de ses deux fils, qu'on trouve en Luc 15, parle de l'amour inconditionnel du Père pour ses deux enfants. Alors nous, souvent, on prend le fils qu'on appelle prodigue, mais en fait, celui qui est prodigue dans l'histoire, c'est le Père, hein. Mais enfin, on prend ce fils qui est parti, tout ça, qui a vécu dans le péché, et tout ça, il est revenu, tout ça, on va prêcher sur l'amour de Dieu pour lui, la repentance, tout ça. Mais on oublie qu'il y en a un autre, le frère aîné. Je suis sûr que quand on lit dans votre Bible ou vous-même, quand on parle de ça, vous pensez, ah oui, c'est l'histoire du fils prodigue. Non, 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 c'est l'histoire d'un père qui aime ses deux fils. Parce que le deuxième, lui, il n'est pas parti, c'est vrai, il est là tout près, il connaît tout, il fait bien le travail, tout ça. Et il pense quoi? Il pense quoi? Que finalement, il le méritait, lui, cet amour. Que le beau gars, il aurait dû être pour lui. Parce que lui, il a toujours obéi. Vous voyez? Une manière cachée d'orgueil. Parce que le texte ne dit pas il était orgueilleux, mais on le découvre par sa manière de penser. Et pourtant, malgré ça, le Père l'aime. Combien de fois Dieu nous a accordé son pardon? Combien de fois tu as demandé pardon à Dieu et que tu as su que tu étais pardonné? Moi, je ne sais pas si votre enfant il fait du mal et qu'il refait toujours la même bêtise et qu'au bout de la 150e fois il vient vous demander pardon, comment vous allez réagir? Vous allez lui mettre la schlag ou, enfin, on ne dit pas schlag ici, c'est la fessée, hein? Vous voyez, 150 fois vous allez lui pardonner sans vous mettre en colère, sans vous énerver. Et la Bible parle d'un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le deuxième fondement, c'est la confiance en Dieu seul. La confiance en Dieu seul. La Bible est pleine de promesses. Mais sa méconnaissance nous amène à douter et à placer parfois sa confiance en nous-mêmes, dans l'homme, voire dans les idoles de ce monde. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit « Assemblez-vous et venez vous approcher ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Et je vous rappelle que peut-être la plus grande des idoles à qui Jésus a donné un nom, c'est vraiment l'argent, le Dieu de l'argent qui est appelé Mammon. Qui est vraiment, si je peux m'exprimer ainsi, le concurrent principal de Jésus. Soit on suit Jésus, soit on suit Mammon. Mais Jésus dit clairement, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous pourriez réfléchir quelques instants. Quelle confiance faites-vous en Mammon? Peut-être regardez la manière de gérer vos comptes et tout, pour voir quelle confiance vous faites en Mammon. Je sais que parfois, on est amené à faire des pas de foi, ce ne sont pas toujours faciles. Hein? Jean a parlé que maintenant, je travaille avec France Évangélisation. Je peux vous dire, je ne fais pas une crise d'orgueil, je vous rassure, mais je peux vous dire qu'on a fait un pas de foi. Moi, dans les églises Méno, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, je ne réfléchissais même pas. Hein, et comme je n'aime pas les papiers, je ne savais même pas exactement combien je gagnais, mais je sais que je gagnais ma vie pour manger tous les jours. Mais quand je suis passé à FE, c'est un soutien qu'on reçoit. Vous voyez? Et donc là, il faut avoir la foi que les dons vont rentrer. Hein? Et en ce moment, je suis dans le rouge. Sur l'école, mais c'est pas pour ça que je manque de quelque chose. Hein? Je manque de rien. Mais je me dis, parfois, la foi nous amène à faire des choses qui ont des conséquences. Et là, on est éprouvé. Est-ce que tu penses que tu as fait un bon choix, que Dieu t'a conduit? Est-ce qu'il est ton seul Dieu? Ou est-ce que pour prendre une décision, tu mets ta confiance aussi en maman? C'est pas toujours évident. Je le reconnais, c'est pas toujours évident. Il y a parfois des conséquences, mais c'est justement dans ce moment où on est éprouvé qu'on voit notre attachement à Dieu. Est-ce que les promesses qui sont dans la parole, je m'en saisis et j'y crois? Est-ce que je crois à ces paroles de Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne récoltent, ils ont à manger tous les jours. » Et moi, je trouve que je suis un gros oiseau et donc j'aurai beaucoup à manger. « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Confiance en Dieu seul. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas d'idole dans votre vie. Parce que les idoles, on en devient forcément esclave. Donc de temps en temps, c'est bien de faire une mise au point dans sa vie et de faire le ménage dans son temple. Le troisième fondement, j'ai un peu parlé hier, notre identité, elle est fondée en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Le chrétien est le seul qui peut vraiment répondre à cette question existentielle. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu, aimé par lui tel que je suis. Pas comme t'aimerais être, pas comme t'aimerais devenir. Le Seigneur, il t'aime tel que tu es, et la Bible dit que c'est un amour sans condition. Et je peux rajouter, j'ai de la valeur à ses yeux, et au moment où le doute vient, je peux dire non, j'ai de la valeur à ses yeux parce que Dieu, pour me racheter, n'a pas hésité à sacrifier son fils Jésus sur la croix. Et jamais personne ne pourra expliquer les souffrances de Christ sur la croix. Des souffrances physiques, il y a eu des milliers de gens qui ont été fouettés, crucifiés. Les Romains, quand ils avaient dévasté une ville et tout, sur le chemin qui menait à la ville, ils plantaient des croix et crucifiaient des gens pour semer la terreur. Donc on pourrait expliquer peut-être les souffrances physiques. Mais comment comprendre que Dieu, l'apôtre Paul dit que Christ a été fait péché pour nous. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre que la punition, le châtiment qu'il devait tomber sur nous est tombé sur le Christ à la croix? C'est pas évident. Et la souffrance était tellement grande que Jésus s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il t'a abandonné parce que toi qui es dans cette salle, il t'aime. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une déchirure dans la Trinité. Mais je pense que c'est un moment tellement ténébreux, j'ai envie de dire, qu'il y a eu ce cri qui a été poussé par Jésus. Je suis un enfant de Dieu, aimé par lui. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Vous qui maintenant avez obtenu miséricorde. Plus nous connaissons notre identité en Christ, plus nous pourrons marcher dans ce que j'appelle la liberté des enfants de Dieu. Et en fait, ce fil à plomb de Dieu, c'est cet amour inconditionnel. Et quand je commence à tomber dans l'incrédulité, je commence à pencher d'un côté, je dois revenir à cet amour inconditionnel de Dieu. Et si je retombe dans l'orgueil, je dois me rappeler cet amour inconditionnel de Dieu. Je n'ai rien à prouver aux autres. Je n'ai surtout pas quelque chose à prouver à Dieu qui me connaît parfaitement. Mais je dois apprendre à me laisser aimer tel que je suis. Est-ce que ce n'est pas un peu dans notre pensée quand même évangélique, pour le salut on prêche la grâce, mais après quand on est chrétien, cette idée de mériter, la bénédiction, de mériter la grâce. C'est vrai qu'il ne faut pas tout dire, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Mais c'est vrai aussi qu'on est appelé à marcher dans l'obéissance. Hey, vous connaissez un verset dans les évangiles où Jésus parle de la grâce? Est-ce qu'il y a un passage qui dirait à peu près « Vous êtes sauvés par grâce ». Est-ce que vous en connaissez un? Non, hein? Jésus, c'est plutôt « Repentez-vous et suis-moi ». Donc c'est sûr qu'il y a une marche dans l'obéissance. Hein, Jésus, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais cette obéissance, elle est possible parce qu'au départ, on est touché par la grâce de Dieu qui nous rend capables de marcher dans l'obéissance. Mais Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Il crée en nous le vouloir et le faire, mais il ne fait pas à notre place. Hein? On est appelé à marcher dans cette obéissance, mais quand je vais un peu de travers, il est bon de me dire, je suis un enfant de Dieu, je suis aimé d'un amour inconditionnel, mon nom est écrit dans le livre de vie, et quand je déraille un petit peu, en me rappelant ça, je peux revenir à Dieu. Parce que si même d'un amour inconditionnel, ça veut dire que même quand je chute, il continue à m'aimer. Et c'est son amour qui me pousse à la repentance. Vous savez, quand j'entends des gens qui annoncent l'évangile et qui prêchent sur l'enfer et tout, moi, ça me fout les boules, hein, je vous le dis franchement. Hein. L'image, je ne crois pas que c'est une bonne manière, ça. Dans l'Épître aux Romains, il est dit, ne comprends-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, pas à la peur d'aller en enfer. On doit prêcher un Dieu d'amour, on doit vivre en montrant que ce Dieu d'amour, il agit dans nos vies. Et nos vies, remplies de cet amour de Dieu, j'ai envie de dire, devraient rendre quelque part un peu jaloux les gens autour de nous. Ils devraient dire, mais il a quelque chose en plus, lui. Voilà, il est au chômage, sa femme à l'hôpital, son gosse lui fait des ennuis, et pourtant, bah, il reste dans la paix. Je vois bien qu'il est triste et tout, mais il reste dans la paix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus, sauf que moi? Eh bien, il se sait aimer d'un amour inconditionnel. J'aimerais conclure en disant que le péché d'incrédulité et d'orgueil se niche assez facilement dans nos cœurs. Et on a sans cesse besoin de revenir à Christ pour être pardonné, pour être renouvelé, pour être libéré. Nous avons toujours besoin de réapprendre à vivre dans l'intimité de notre Père. Et pour apprendre ça, peut-être que la méditation dans l'évangile de Jean, du disciple bien-aimé, peut nous montrer cette intimité. J'ai étudié l'évangile de Jean à l'Institut biblique, et à la fin, la prof a demandé « Comment, en un mot, vous résumeriez tout ce que vous avez appris ?» Et le mot qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est l'intimité. J'étais surpris, je ne trouve pas vraiment le mot, de voir l'intimité profonde qu'on peut avoir avec Dieu. Et quand on vit dans une forte intimité avec quelqu'un, ben on apprend à connaître cette personne, on découvre de plus en plus cette personne. Alors quand on sent que le péché d'incrédulité, d'orgueil se manifeste en nous, nous devons nous repentir et ne pas avoir peur d'aller vers ce Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Dans l'Épître aux Hébreux, peut-être un des plus beaux versets pour nous, « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce » afin d'être secouru dans vos besoins. Il n'est pas dit, approchez-vous de la porte du tribunal et rentrez, et là, vous allez voir, avec tout ce que vous avez fait, ça va chauffer, mon gars. Hein? Non, non, c'est le trône de la grâce. Et je m'approche d'un Dieu qui m'aime d'un amour inconditionnel, mais qui me connaît mieux que moi-même. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui cacher quelque chose? C'est ça qui nous donne la liberté dans la prière de dire tout ce qu'on a sous le cœur, nos difficultés, nos péchés, nos luttes et tout. Il nous connaît tel que nous sommes. Ça nous donne une grande liberté. Je vous rappelle que la repentance, c'est le seul mouvement du cœur qui nous donne accès au pardon. Le fil à plomb de Dieu, donc, c'est vraiment son amour inconditionnel. En théorie, j'ai fini mon message, mais j'aimerais encore vous parler un peu. Tout chrétien évangélique a à cœur de partager l'évangile. Bon, moi, peut-être parce que je suis évangéliste, alors j'ai toujours du mal à comprendre qu'un chrétien n'ait pas envie de partager sa foi. Mais Je ne juge absolument personne qui est dans la timidité, tout ça, je peux comprendre ça, je peux comprendre les peurs qu'on peut avoir, je comprends ça. Mais je me dis, des fois, on peut être un chrétien timide, on peut avoir du mal à parler, mais si on n'a pas l'envie de partager ce qu'on vit avec les autres, ça me gêne toujours un peu. Je me dis, comment on peut vivre avec un Dieu qui nous aime d'un amour aussi grand, qui nous a graciés, qui nous a pardonnés, qui nous prépare une demeure auprès de lui sans le dire aux autres. Mais si je veux vraiment partager cet amour d'une manière efficace, ben il faut vraiment que je le vive, cet amour inconditionnel. Il faut que ça se manifeste dans ma vie. Hein, j'ai vu que vous allez faire de l'évangélisation, tout ça. Mais qu'est-ce qui va impacter les jeunes et les gens? Est-ce que vous croyez que c'est des activités? Vous avez beau faire un beau spectacle de rue, des trucs comme ça, c'est pas ça qui va les impacter. Ça va les faire venir. Ce qui va les impacter, c'est vous. C'est vos vies transformées. C'est le contact qu'ils vont avoir avec vous. Moi, je suis pas mal de jeunes. Bon, il y a Léa qui me connaît bien, hein, n'est-ce pas? Mais je suis pas mal de jeunes, et moi, le plus beau compliment que j'ai des fois reçu, c'est pas quand les jeunes m'ont dit « merci pour ce que tu fais pour moi, tout ça ». C'est quand ils me disent « merci pour ce que tu es ». Vous comprenez? Et là, je dis « merci Seigneur, hein, que dans ta grâce, tu permets que ma vie puisse impacter celle des autres hein ». Donc faire des activités, mais bien sûr, moi aussi je fais des camps, je vais chanter dans les maisons de repos, tout ça, les trucs. Je fais toutes ces choses, mais je sais que ce qui marque les gens, c'est nos vies. Et plus vous êtes remplis de l'amour de Dieu, plus votre caractère ressemble au caractère de Christ, plus vous allez interpeller les gens. Parce qu'ils vont dire, lui, il prêche quelque chose, mais je le connais, je le vois au boulot, tout ça, et c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est comme ça dans sa vie. Et là, vous allez avoir du poids. Et rappelez-vous une chose, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais vous avez été sauvés pour entrer dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Laissez-vous aimer par Dieu et rendez jaloux les gens qui vivent autour de vous. Amen.